Voici Dan Bigra.
Alors, on parle toujours de Martin Carpentier qui a assassiné ses deux petites filles. J'essaie toujours, même quand c'est difficile, de trouver les moyens de un jour faire de la prévention, un jour... alors, on essaie de réfléchir. C'est difficile. Surtout en ce moment, on est dedans. Monsieur Carpentier n'a même pas encore été attrapé. On va parler avec Geneviève Landry, qui est directrice générale de l'entraide pour hommes. Dites-moi, Madame Landry, vous avez deux petites filles. Êtes-vous capable de raisonner? Moi, j'ai bien de la misère. J'ai la gorge nouée, là. C'est difficile.
Non. Honnêtement, Dan, ça fait plus de 20 ans que je travaille en violence conjugale et c'est inévitable. J'ai passé une mauvaise fin de semaine. C'est troublant. Malgré le fait que je lis des recherches, que je suis capable, à un moment donné, d'avoir un recul objectif, c'est grave, c'est inouï. Puis comme tu le disais, j'ai deux jeunes filles. Alors, c'est sûr que quand je regarde mes filles, j'ai de la misère à imaginer qu'on peut se rendre là.
Donc, on serre tous nos enfants un petit peu plus fort aujourd'hui.
C'est dur, c'est difficile, c'est vraiment super difficile. Par contre, comparativement à Dr. Chamberlain, que j'aime beaucoup, moi j'aime croire qu'on peut reconnaître certains indices, j'aime croire qu'on peut, un peu comme toi, de dire, il faut à un moment donné arriver à faire de la prévention. Il y a des choses qu'on sait, il y a eu quelques recherches, pas une tonne, mais bon, ce qu'on sait, 50% des cas, il y avait une séparation, une menace de séparation. On sait effectivement, bon, le docteur Chamberlain l'a apporté, 30% ont un historique là, psychiatrique. On sait que consommation de drogue et alcool est présent. Et ce qu'on sait aussi, c'est de ça, moi je peux beaucoup te parler, c'est que dans 60% des cas, il y avait la présence d'antécédents de violence conjugale. Mais je pense que c'est à ce moment-là.
Et donc, la violence était déjà une solution à une souffrance à ce moment-là.
C'était déjà.
Ça ouvre une porte.
C'est un homme qui a l'habitude, ça ouvre une grande porte dans 60% des cas, qui a l'habitude de répondre impulsivement ou de répondre par de la violence à une frustration. Ce qu'on appelle, là, tu sais, bon, il y a le meurtre, là, qu'on a parlé, qui est une accumulation de pertes, de ruptures, mais vive mal, je suis convaincue que la séparation a entaché toute la famille. Je suis malheureux, alors je vais quitter en amenant mes enfants parce que je les aime. Bon, premier scénario ou ce scénario-là, on va voir plus des troubles de santé mentale. L'autre scénario où on voit beaucoup d'antécédents de violence conjugale, c'est la vengeance. Elle a voulu détruire la famille. Alors moi, je vais la priver de toute sa vie, de la présence des enfants.
Oui, un peu comme un monsieur qui n'accepte pas une séparation puis qui dit « je ne peux pas t'avoir, personne ne va t'avoir ». Mais là, c'est parce que ça faisait 5 ans, la séparation, ils avaient chacun un conjoint. C'est plus complexe ici, là.
Mais c'est sûr que tu sais, ça va être difficile pour moi de parler amplement de ce cas-là parce qu'il nous manque des détails.
Vous avez raison. En fait, on ne sait pas grand-chose.
On ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que je pense que la rupture avait été difficile. Il n'acceptait pas encore de cette rupture-là. Il n'acceptait pas la garde partagée ou quelque chose du genre. C'est les indices qu'on a. Mais ce qu'on sait dans les facteurs précipitants, bon, on sait que dans ces cas-là, il y a souvent une question, bon, violence conjugale, il y a une question de voir l'ex-conjointe ou la conjointe qui va se séparer comme étant, on n'a pas de mot positif, hein, on la regarde très, très négativement, notre perception est négative. Souvent, lorsqu'il y avait de la jalousie, la possessivité, tu sais, les papas qui sont jaloux, très possessifs, vont avoir tendance à être là-dedans aussi. Ça, c'est des indices. Est-ce qu'il y avait un problème de garde d'enfants? Peut-être. Tu sais, il y a plein de choses, Dan, qu'on ne sait pas.
On est trop tôt, là. Faut faire attention, même derrière, dans nos hypothèses. Moi, je viens de faire l'erreur, là. Quand on est à la radio, faut dire qu'il a présumément tué ses petites filles parce qu'il n'y a pas de preuves, mais... Ça semble tellement évident que je me suis échappé. Bon, puis je suis pas un animateur de métier encore. J'ai échappé ça. Mais c'est parce qu'on est très tôt encore pour faire des hypothèses. On a des très, très, très petites pistes.
Tout à fait. On a des petites pistes. Puis c'est sûr qu'on tombe tous dans le panneau de dire qu'il s'agit effectivement d'un suicide. Parce que je pense, Dan, qu'on a l'impression de revivre la même chose. Moi, depuis l'été passé, depuis un an, j'ai l'impression qu'on vit toujours la même histoire. Tu sais, un homme qui n'accepte pas la séparation, qui tue ses enfants, on l'entend un petit peu trop souvent.
Ah oui, il y a un scénario qui revient souvent. Hein.
il y a un scénario qui revient souvent. Donc, c'est sûr que moi, si les recherches disent, ben, dans la majorité des cas, dans 60% des cas, il y avait présence d'antécédents de violence conjugale, moi, je me dis, je pense qu'on peut faire de la prévention. Effectivement, c'est difficile, c'est pas simple. On va continuer à en échapper. Mais est-ce qu'on pourrait pas dédramatiser la demande d'aide des hommes chez ceux qui vivent
une situation amoureuse
difficile?
C'est une excellente question parce que vous travaillez, vous, avec des hommes qui ont besoin d'aide, mais c'est pas tous qui peuvent demander de l'aide. Maintenant, quand ils demandent de l'aide, est-ce qu'ils en ont? Chez vous, je me doute bien qu'ils en ont, mais il y a quoi, une trentaine d'organismes qui peuvent venir aux hommes?
En violence conjugale, une trentaine d'organismes. Hommes en difficulté de façon large, là, on est environ 70 au Québec.
Il y en manque,
oui, ça, écoute, on se le cachera pas, il en manque. Je vais être honnête, nous, on voit plus de 1000 gars par année, on a des listes d'attente. Alors, c'est sûr qu'il manque des ressources. On va partir de là. Mais à la base, est-ce qu'on peut pas favoriser cette demande d'aide-là? Là? En partant, les hommes ne connaissent pas les services qui sont existants. La population, en général, non plus, ne connaissent pas les services existants. Et est-ce qu'on peut pas favoriser chez un homme qui a une rupture amoureuse difficile, qui a des gestes de violence, d'aller chercher de l'aide? Ça, je pense que c'est la première étape. Et ça demande, c'est sûr que ça demande une expertise, hein. L'homme n'arrive pas dans le bureau en disant, bon, mais moi, je viens de voir parce que je goûte chez ma femme et mes enfants. Ça fonctionne pas comme ça.
Il peut parler d'autres choses en arrivant, tâter le terrain, etc. Mais c'est quelque chose, parce que c'est extrêmement difficile de demander de l'aide quand c'est nous autres qui a des pulsions violentes. Mais et là, le service, la radio peut rendre aujourd'hui avec vous. C'est ça que je cherchais. C'est ce que vous me dites. C'est qu'il existe des services. Puis quand on est désespéré, les hommes, on se pense souvent seul, on doit être tough, mais être tough seul, c'est une très mauvaise combinaison quand on est en désespoir. En désespoir, il faut se faire aider. Il faut parler avec des gens qui sont capables de recevoir ce qu'on a à dire.
Mm-hmm. Ben oui, tout à fait, parce que ça demande quand même de l'expérience, une formation, être capable de recevoir des scénarios noirs, comme on en parle aujourd'hui. C'est sûr que je dois être assez solide comme intervenant. Et il y a plusieurs, les 30 organismes que je vous parle, sont formés là en l'appréciation du risque d'homicide conjugal et familial au Québec. Donc, on est outillés, on a tous nos outils pour être en mesure d'établir un lien de confiance avec lui, mais aussi d'évaluer, bon, il y en est où? Souvent, il y a un changement brusque. Hein? Ça n'arrive pas du jour au lendemain, il y a un changement brusque. Il faut être apte pour évaluer tout ça. Et je dirais, bon, il y a l'étape du gars qui doit faire l'effort d'aller demander de l'aide, mais ce qu'on voit, c'est que les gars vont chercher de l'aide quand il y a une personne significative autour de lui qui dit, hey, mon homme, je trouve que tu as changé dernièrement, je suis inquiète, puis parce que je t'aime, je vais t'accompagner, tiens, on va aller voir, on va aller chercher de l'aide. Souvent, on voit qu'un meilleur ami, un parent, un collègue de travail, c'est des choses qui fonctionnent. C'est quelque chose qui marche.
Oui.
Le gars se
mais
sent...
Mais quand ça marche plus, quelqu'un comme vous, parce que moi, je sais pas, un homme qui m'arrive, admettons un collègue de travail, mon technicien de son me regarde, admettons je prends lui. et il m'arrive, il dit, je suis mauvaise humeur aujourd'hui. Fait que là, on va tout faire attention à lui, pas l'emmerder aujourd'hui. On trouve qu'il travaille... Hey, je viens d'inventer ça, mon technicien est super bonne humeur, là. C'est parce qu'il risque de le devenir mauvais si j'arrête pas de monter des affaires sur lui. Mais quelqu'un qui rentre dans votre bureau qui dit, je suis de mauvaise humeur, ça veut dire d'autres choses, là.
Mais ça veut dire d'autres
choses. Vous prenez ça beaucoup plus au sérieux, là.
Oui, puis il faut regarder avec lui quel est le contexte de la demande d'aide, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il faut regarder l'historique. Est-ce qu'il y a un historique, vous l'avez nommé tantôt, Dan, est-ce qu'il y a un historique de violence dans l'enfance? Souvent, on remarque que les hommes qui ont commis le suicide, ce sont des hommes qui ont vécu de la violence ou de l'abandon dans l'enfance. Donc,
c'est une autre chose importante que vous dites. On regarde souvent... Dans les cas atroces comme celui qui nous occupe aujourd'hui, on regarde, est-ce qu'il y a eu des antécédents dernièrement? Et on pense pas aux antécédents dans l'enfance de la personne en question. Souvent là, doit être plus souvent la réponse, je crois. Parce que lui, il a vu que la solution pouvait être la violence s'il a été battu.
C'est plus facile de répondre comme ça maintenant. Et quand on était, tu sais, lorsqu'on est brisé depuis qu'on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qu'on accumule des brisures au fur et à mesure, ben peut-être que la brisure, la rupture amoureuse à 40 ans, elle passe plus. Parce qu'il y a eu tellement de brisures, tellement de souffrances.
Il y a un trop-plein.
Il y a un trop-plein. Et ça peut exploser. Effectivement, on le sait, nos enfants, on les construit, entre guillemets. Fait que si on les construit dans le bonheur, si on les construit en leur parlant des stratégies de communication, de rapport égalitaire, de non-acceptation de la violence, d'aller chercher de l'aide.
Mais encore là, c'est parce que nos enfants, on voudrait bien leur passer ce qu'on veut, mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'on leur passe ce qu'on peut.
la vérité, c'est qu'on leur passe ce qu'on peut, effectivement, d'où l'importance aussi d'avoir des programmes de prévention dans les écoles. Je pense que les écoles ont aussi, et il y en a un peu partout, ont un rôle à jouer, les amis ont un rôle à jouer. Il nous reste plein de types d'affaires à faire au Québec. Et les médecins, c'est moi, je parle tout médecin parce que en novembre 2018, il y a eu un sondage Somme sur la détresse masculine au Québec. Et une chose que moi, j'ai beaucoup retenue, bon, ce que j'ai retenu, c'est 25% des hommes au Québec souffrent, se disent, en état de détresse psychologique. Donc, 1 sur 4 se sent en état de détresse psychologique. Et de tous ces gens-là, 80% d'entre eux disaient, moi, ce qui va m'amener à aller chercher de l'aide, c'est si mon médecin me dit, hey, mon homme, faut que tu cherches de l'aide. Parce que le médecin a un pouvoir au Québec.
Oui, donc, moi, mais s'il est déjà chez son médecin en train de parler, c'est parce qu'il a déjà commencé à chercher.
Il y a probablement des symptômes de dépression. On s'entend, même celui qui agit par représailles, par menace envers l'ancienne conjointe, il n'est pas sain d'esprit, on s'entend. Là. Malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas d'historique.
Oui, puis il y a sain d'esprit, puis il y a sain d'esprit légalement. Ce n'est pas des concepts tout à fait suffisamment définis, puis ça ne sera peut-être jamais non plus. C'est beaucoup de... On parle de nature humaine, puis de blessures profondes. Madame Landry, vous avez éclairé mes lanternes sur beaucoup de choses, dont sur le... Deux choses. Première chose, les hommes désespérés, appelez, demandez de l'aide, allez googler toutes les ressources d'aide, sinon parlez à un médecin, commencez, mais n'importe qui, parlez. Deuxième chose, on cherche souvent les antécédents de violence, de l'homme en question, et on réfléchit pas assez aux antécédents de violence que lui a peut-être subi quand il était homme, quand il était petit. Madame Landry, c'est deux choses très, très précieuses. On va garder ça avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci. C'était Geneviève Landry, qui est directrice générale de l'Entraide pour Hommes. Après la pause, on va parler avec Jean-Luc Mongrain. À tout de suite.